Morning Edition from NPR News.
Let's see things on the house. Hey,
I'm ready to go to Paris.
Produce again to the radio.
France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, l'Amérique qui s'est levée en pleine nuit, littéralement pour contester ou pour applaudir une décision apparemment à venir de la Cour suprême des États-Unis, donc qui annule l'arrêt Roe versus Wade qui autorise depuis 50 ans l'avortement aux États-Unis. Un vrai coup de tonnerre sur le fond, mais aussi sur la forme, parce que c'est une fuite qui a permis à l'Amérique de lire ce texte et une fuite à la Cour suprême. C'est très très inédit. Le bruit du monde ce soir est au Mexique parmi les journalistes menacés de mort, 8 assassinats encore depuis le début de l'année et une impunité totale. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Corinne Audouin a trouvé un cadavre dans un lac aux États-Unis. Tiens, encore à cause de la sécheresse, une méga église évangélique en Espagne qui pose question et des vols de jouets dans le palais d'Erdogan en Turquie. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec des contractions en plein discours. Une révolution dans les noms de famille en Italie et une baignade topless à Göttingen. À 18h50, c'est le monde d'après. Jean Marfour qui nous dira que les sanctions européennes n'arrêteront pas la guerre en Ukraine, mais peuvent servir à autre chose. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Roger Cohen.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du bureau du New York Times à Paris. C'est peu dire que cette fuite à la Cour suprême, on va revenir d'ailleurs sur la méthode, la fuite est importante, mais ça a été réellement sur le fond un coup de tonnerre, diriez-vous ce soir, que l'annulation de l'arrêt historique au sujet de l'avortement Roe versus Wade est possible ou probable même. Est-ce que cette bataille est engagée ou est-ce que cette bataille est déjà perdue pour les États-Unis ?
Je dirais que maintenant c'est probable, puisque cette fuite démontre que les juges conservateurs sont convaincus qu'il faut pas ajuster, mais renverser Roe v. Wade, c'est-à-dire le droit constitutionnel à l'avortement qui a existé aux États-Unis maintenant depuis presque 50 ans et dans un pays déjà très fracturé entre républicains et démocrates, entre États rouges et États bleus. C'est une bombe.
Les coups de boutoir contre l'avortement ne sont pas neufs. Ça fait longtemps que tout cela dure. Il y a eu récemment, notamment autour du Texas, la Cour suprême qui refuse de bloquer cette loi qui permettrait, qui interdit l'avortement même en cas d'inceste de viol. Il y a le cas du Mississippi, il y a celui de l'Oklahoma. Il y a des balles qui sont tirées vraiment à balles réelles, si j'ose dire, depuis très longtemps. Mais est-ce que vous êtes surpris par la teneur du texte ? Parce que la teneur dit... infondé depuis le début. Cet arrêt est infondé depuis le début. C'est quand même extrêmement violent comme formulation.
C'est violent et c'est basé, selon le juge Alito, sur le fait que dans la Constitution des États-Unis n'apparaît pas le mot « avortement ». Mais la Cour a bien trouvé que, selon l'amendement 14, le droit à la liberté est protégé. Et dans la liberté, il y a le droit à la vie privée. Et donc, les femmes ont le droit constitutionnel à l'avortement. Changer ça a été un projet, renverser ça a été un projet conservateur désormais depuis des décennies. Et les conservateurs, notamment avec Trump, qui a pu nommer 3 juges pendant sa présidence de 4 ans, ce qui était presque inouï, ce qui a fait que maintenant, c'est une cour extrêmement conservatrice. Et je dois dire que le juge Ginsburg, libéral, qui a refusé de passer à la retraite pendant la présidence Obama, elle porte une certaine responsabilité. Parce que si, à l'âge qu'elle avait, elle aurait décidé d'aller à la retraite, et Obama
malade,
aurait pu nommer quelqu'un, on n'aurait pas Amy Coney Barrett, conservatrice, maintenant à la Cour suprême. Donc c'est un projet de longue haleine, disons.
Alors, vous l'avez dit, mathématiquement, les conservateurs sont en nombre supérieur. Donc, effectivement, les choses ne peuvent pas changer. Les choses reposent sur John Roberts, et encore que, d'ailleurs, parce que même s'il décide
ça ne repose pas sur John Roberts.
Exactement.
Parce que ça porterait à 5 contre 4 au lieu de 6 contre 3.
Donc ça ne change pas.
Mais ça serait significatif quand même que le juge en chef, c'est-à-dire John Roberts, ne soit pas aligné avec Alito. Mais ça ne change pas le fond.
Ça ne change pas le fond, mais quand même, Roberts, c'est aussi celui qui avait refusé de faire capoter Obamacare. Donc est-ce que vous diriez qu'il est toujours le gardien de ce qui est censé être la Cour suprême ? Parce que la suite de ma question, c'est en voyant ça, ça, est-ce qu'on se dit que la Cour suprême elle-même, en fait, est fragile et désormais devenue une instance uniquement politique qui ne remplit plus le rôle qui doit être le sien?
Je dirais que c'est une très bonne question, parce que la question est posée. Si immédiatement après l'installation de ces juges très conservateurs, on arrive à ça, ça a l'air vraiment de politiciser la Constitution d'une manière que beaucoup d'Américains vont trouver inacceptable. Il faut dire qu'on parle ce soir d'un brouillon et d'une fuite. Mm-hmm. Et les juges peuvent changer d'avis. Donc on parle pas encore de quelque chose qui est décidé. Mais ça serait, à mon avis, très improbable maintenant que ça change.
C'est un vrai brouillon, ça ils l'ont confirmé, n'est pas finalisé,
C'est un vrai brouillon, et ceux qui connaissent la manière dont le juge Alito a d'écrire trouvent que le texte correspond à 100% à son style, qui est très tranchant, disons. Donc, il n'y a pas beaucoup de doutes. Comme vous avez dit, ce qui s'est passé est assez inouï. Je veux dire qu'il y a une fuite du cabinet ou du gouvernement, enfin, ça arrive, mais une fuite de la Cour suprême, comme ça, d'un brouillon, d'un verdict auquel la Cour arriverait, c'est assez inouï.
Mais qu'est-ce que ça dit, ça, Roger Cohen, qu'il y ait une fuite?
Je pense qu'on revient à ce qu'on vient de dire, c'est que c'est très politicisé maintenant, et que quelqu'un, je pense probablement quelqu'un qui est opposé qui est apparemment sur le point d'arriver, a décidé que ça avait une importance. Il y a une corrélation directe entre l'importance cardinale de cette affaire et la fuite, parce que ça va changer l'Amérique d'une façon profonde. Et en plus, ça arrive à un moment où il y a des confrontations assez violent dans le pays. Il faut remarquer quand même qu'on est à 16 mois de l'envahissement du Congrès par cette foule d'extrême droite qui avait été encouragée par l'ex-président Trump.
Votre journal écrit « Ce qui se passe, c'est un changement sismique dans le droit américain et la politique américaine quelques mois avant les élections à mi-mandat. Un changement sismique. »
Oui, un tremblement de
terre. Exactement, c'est ça que ça veut dire.
Je pense, et c'est vrai qu'on est à 6 mois des midterms, des élections de novembre, et ça va dominer en quelque sorte cette campagne, ce qui peut ou pourrait jouer à l'avantage des démocrates, puisque selon les sondages, 70% des Américains sont à faveur du droit à l'avortement. Peut-être qu'ils veulent limiter de quelque manière, mais 70% quand même pensent que l'idée de ce droit constitutionnel à l'avortement ne doit pas être renversée.
Alors c'est ce que j'allais vous demander. Il semble que sur ces sujets-là, sur celui-là en particulier, il y a une vraie différence entre les citoyens américains et ce que sont devenus aujourd'hui les élus républicains. Est-ce que vraiment ça peut jouer, ou est-ce qu'au fond les électeurs républicains, exactement comme leurs représentants, se sont tous rangés dans le même camp, c'est-à-dire le camp des Trumpistes?
Les élus républicains représentent une certaine partie de l'Amérique. C'est une partie qui parfois est difficile à comprendre, mais c'est une partie qui existe et qui a été assez forte pour élire le président Donald Trump en 2016. Donc cette partie du pays existe, mais sur cette question de l'avortement, ce n'est pas la majorité. Et à quoi on va arriver si ça se fait, si ce brouillon sera voté à la fin par la Cour suprême? On va arriver à une situation où tous les États du Sud, les États conservateurs, il sera impossible dans ces États-là d'avoir un avortement. Et comme l'avortement aux États-Unis concerne principalement les femmes plus pauvres, souvent des femmes noires, il y a pour ces femmes-là beaucoup de difficultés pour voyager à un autre État, dans une autre partie des États-Unis où l'avortement resterait légal. Donc c'est une situation, je dirais, chargée d'émotions, chargée de dangers et chargée de violences potentielles.
Qu'est-ce qui se passe, même dans les États, de toute façon, où l'avortement restera légal dans les États démocrates, où au fond, parce qu'il y avait Roe versus Wade, on était relativement protégée. Est-ce que ça veut dire que on revient à des lois qui parfois sont antérieures? Je disais que dans le Wisconsin, par exemple, c'est une loi du 19e siècle, la dernière en fait avant Roe versus Wade. Est-ce que ça veut dire que urgemment, chaque État démocrate ou chaque État qu'il souhaite va devoir très vite faire une loi pour protéger les femmes qui veulent continuer à avorter?
Je pense qu'il y a beaucoup de démocrates qui pensent, Bernie Sanders en a déjà parlé, et je crois que oui, ça sera nécessaire d'aller vite, quoi, et d'assurer que l'avortement dans ces États-là reste légal. Mais il ne faut pas confondre la perte du droit constitutionnel avec la perte totale de la possibilité de se faire avorter aux États-Unis. Ça sera impossible, probablement, très sûrement, dans certains États. Mais dans certains autres États, jusqu'à un autre changement, ça sera encore faisable, possible. Mais à un moment où, par exemple, la Mexique, la Colombie, l'Argentine, beaucoup de pays vont vers la légalisation de l'avortement, l'Irlande l'a fait il y a quelques années, voir mon pays aller dans cette direction, parce qu'il y avait d'autres possibilités. On pouvait limiter, on pouvait faire certaines choses qui rendraient l'avortement un peu plus compliqué à avoir. Mais non, ils ont choisi, ces juges un peu fondamentalistes, de dire non, bah, le mot n'est pas dans la Constitution. L'idée que ça fait partie des libertés protégées aux États-Unis n'est pas valable. Et donc, voilà, on va détruire, renverser tout. Et ça reflète la radicalisation du pays.
Ça veut dire qu'ils se sentent des ailes, ces juges-là. Ils se disent, c'est le moment, parce qu'encore une fois, il y en a eu des attaques précédemment. Donc,
Jusqu'à Kavanaugh, qui avait déclaré, il y a quoi, 2 ans, que non, que quand il s'agissait de Roe v. Wade, il avait assuré le sénateur Collins qu'il ne ferait rien pour changer ça. Et il arrive là, et tout de suite, ce qu'il a dit il y a 2 ans ne compte pour rien.
Roger Cohen, c'est un arrêt, Roe versus Wade, donc vous le disiez, effectivement, chaque État ensuite peut choisir la législation qu'il jugera être la bonne. Qu'est-ce qui se passe si demain, l'interdiction est transformée en loi? Est-ce que c'est possible qu'on en arrive du coup à un arrêt complet? Si demain, aux élections à mi-mandat, les démocrates perdent Chambre et Sénat, est-ce qu'on peut transformer tout cela en une loi qui interdit sur le sol américain, où que l'on soit, l'avortement? Est-ce que cette menace, elle existe?
Cette menace existe, oui, elle existe. Et à ce moment-là, oui, si les républicains dominent suffisamment le Congrès, c'est possible. Mais à ce moment-là, je ne veux pas penser trop à ce qui pourrait se passer dans le pays. Parce que déjà, c'est énorme, c'est une bombe. Là, ça serait une bombe atomique.
Est-ce que ça... Finalement, est-ce que ça ne sert pas aussi, d'une certaine façon, les intérêts de Joe Biden? Parce que ça veut dire que cette campagne avant les mi-mandats va avoir une autre teneur que celle qu'elle était censée avoir. Ça veut dire qu'on va se battre là sur un vrai thème sociétal qui est un marqueur entre démocrates et républicains. Donc, est-ce que, d'une certaine façon, ça ne sert pas aussi les intérêts de Joe Biden pour une campagne qui s'annonçait très mal parce qu'il va pas bien dans ce pays, Joe Biden?
Je pense que ça peut favoriser Joe Biden, ça peut favoriser les démocrates. Quand on a une inflation très élevée, quand il y a des questions sur l'immigration, quand Joe Biden avait pas mal de problèmes, c'est quand même un thème très clair, très galvanisant, qui peut unir tous les démocrates pour dire non. Il faut absolument pas qu'on permette aux républicains de reprendre le Congrès, pour des raisons dont on vient de parler, entre autres. Donc, on ne sait pas encore la mesure de ça, on ne sait pas encore à quel point ça va jouer, mais ça va certainement jouer. Et encore une fois, ceci n'est pas encore décidé. Non. Je pense que c'est très probable, mais en ce moment, on parle d'un brouillon.
Et si c'est décidé, c'est quand? C'est-à-dire que les réunions de la Cour suprême, ça commence quand? À partir de quand on risque d'avoir ces scènes que vous redoutez? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé cette nuit, alors on est au milieu de la nuit.
Ça serait d'ici pas plus qu'un mois, je crois. Donc oui, on a déjà vu ces scènes et on a vu, par exemple, le gouverneur Newsom de Californie dire que on va batailler comme le diable pour contre ça. Et on a vu Chuck Schumer aussi, le démocrate plus influent au Sénat, dire que voilà. Ça, c'est une lutte sur laquelle on va s'engager avec véhémence et avec détermination. C'est quelque chose qui touche les gens très profondément. C'est quelque chose qu'on vit dans des familles, que tout le monde connaît quelqu'un qui s'est trouvé devant ce dilemme-là. Et encore une fois, c'est pas une loi d'hier.
Non. 50 ans, 72.
Les États-Unis ont vécu depuis un demi-siècle avec ce droit constitutionnel à l'avortement. Donc, avançons dans le 21e siècle, voir le pays retourner comme ça en arrière, c'est tout de même presque aussi bouleversant, je dirais, que ce qui s'est passé en 2016 avec l'arrivée au pouvoir d'un président qui pour lequel les valeurs américaines n'étaient pas ce qu'elles sont pour beaucoup de nous, et qui ne mettaient aucune valeur sur l'alliance avec la France, sur l'OTAN, sur l'Union européenne, et était un nationaliste pur et simple.
Vous avez évoqué l'atmosphère du 6 janvier, Roger Cohen. Est-ce que on parlait à ce moment-là d'un pays qui était plus que divisé? On parlait même d'un pays en état de guerre civile, en y mettant des guillemets, parce qu'on n'en était pas effectivement. Mais néanmoins, est-ce que c'est typiquement le genre de choses qui vous remet au 7 janvier, en fait, qui vous ramène au lendemain de cet épisode-là et qui remet une pièce dans cette machine de cette division-là, voire d'une violence qui peut se produire entre pour et contre, en l'occurrence. Est-ce que ça vous remet
justement, les États-Unis, un peu comme la France, mais plus, est fracturée sur les valeurs, est fracturée entre les grandes villes et ce qu'on appelle en France la périphérie. Et quand on rajoute à ça quelque chose qui, encore une fois, touche beaucoup de gens profondément et sur lequel la division d'opinion est très dure, est très forte, est très extrême. Ceux qui sont contre l'avortement sont absolument contre l'avortement. Et ceux qui sont pour sont absolument pour. Donc, la possibilité de confrontation extrêmement dure et violente du genre qu'on a vu le 6 janvier, cette espèce de scène qu'on n'imaginait pas dans mon pays, je pense que ça rajoute beaucoup de possibilités de violence.
Est-ce que vous diriez que tous les autres thèmes n'existent plus, y compris celui de la guerre en Ukraine, qui était un sujet presque majeur chez vous?
Non, je ne dirais pas ça. Quand même, une guerre en Europe est très importante, et les Américains se sont beaucoup engagés voyant les scènes, par exemple, de Boutcha ou d'autres endroits où il y a eu, il paraît au moins, des crimes de guerre russes terribles. Donc, non, je pense que le peuple américain, les autres thèmes existent encore, mais un peu sotto voce, parce que pour le moment, la question de l'avortement va dominer pour quelque temps.
Et dominer jusqu'au mois de novembre. On verra bien ce qui se passe d'ailleurs sur le front de l'Ukraine. J'ai juste une toute petite dernière question, parce que je sais que le temps en tourne déjà. Ouais. Quand on annule le droit à l'avortement, une vraie question sociétale, et vu l'angle d'attaque des conservateurs de la Cour suprême, ça veut dire que le mariage gay, ça veut dire que tous ces thèmes sociétaux-là peuvent sauter en même temps. Est-ce que vous avez cette crainte-là?
Oui, il y a cette possibilité également, parce que Roe v. Wade était basé, comme j'ai dit, sur le droit à la liberté, enfin la protection de la liberté
et le 14e amendement de la Constitution.
Et à la vie privée, et le gay marriage, enfin si on peut renverser le droit constitutionnel à l'avortement, on peut en théorie aussi dire qu'on ne parle pas de gay marriage dans la Constitution, donc on peut renverser aussi ça.
Et en revanche, on parle du port d'armes dans la Constitution, donc chez vous, l'honneur est
peut-être
sauf.
Peut-être on laissera ça pour une autre fois.
Voilà. Merci beaucoup, Roger Cohen. Merci de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Mexique sur France Inter.
Et la suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe au Mexique où l'impunité contre les assassins de journalistes est terrifiante. Emmanuel Stills vous fera rencontrer des journalistes protégés justement pour pouvoir exercer leur métier. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, c'est vous Corinne Audouin.
Une conséquence inattendue du réchauffement climatique dans le Nevada, le niveau du lac Mead a baissé, découvrant un squelette. Il était au fond de l'eau depuis 40 ans.
Passons genre dans le monde, c'est vous Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir. Tenter une investiture démocrate et accoucher en même temps, c'est possible, ou presque. En tout cas, Erin May Quaid l'a fait.
Allez, le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir à vous, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. L'Europe s'apprête à annoncer un sixième train de sanctions contre Moscou. Il faut l'accepter, ces sanctions n'arrêteront pas la guerre, mais ce n'est peut-être pas ça l'objectif.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par l'île de Wight une fois de plus. On aime beaucoup Wet Leg. Your Mum sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
When I think about you.
Le bruit du monde ce soir est au Mexique où les assassinats de journalistes sont un fléau monumental au point que depuis l'année dernière, le Mexique est qualifié du pays le plus dangereux pour l'exercice de la profession par le Comité pour la protection des journalistes. Depuis le début de cette année, 8 morts. Ces crimes ont poussé les représentants de la presse à manifester à plusieurs reprises dans tout le pays pour réclamer la fin de l'impunité de ces crimes. Moins d'un assassinat sur 10 en moyenne est résolu. Et le reste, c'est Emmanuel Stills qui raconte.
C'est un refugio del mecanismo de protección.
Jesús Medina nous fait entrer dans un immeuble de Mexico qui sert de refuge pour des journalistes venus de tout le pays. Il y occupe un appartement avec sa femme et leurs 3 enfants. Toute la famille a dû fuir le village de Tetela del Volcán à 2 heures de route de Mexico depuis que Jesús a reçu des menaces en 2017. Il avait dénoncé la corruption des autorités locales.
Une camionnette s'est approchée de moi dans le village et ils m'ont crié depuis la fenêtre « Tu t'en prends au gouvernement, fils de... Tu vas crever !» Mais ce qui m'a vraiment fait peur, c'est de voir le même véhicule s'arrêter devant chez moi l'après-midi. Il venait en reconnaissance, probablement. Ça m'a alerté. J'ai eu très peur qu'ils s'en prennent, non pas à moi, mais à ma famille.
Le lendemain s'engage une poursuite infernale dans le village. Jesús, à moto, est pourchassé par le même véhicule, transportant des hommes armés qui tentent de le tuer, mais qu'il parvient à semer. Depuis lors, il est intégré au mécanisme de protection officiel pour journalistes menacés. Créé il y a une dizaine d'années par les autorités mexicaines, ce système est censé assurer la sécurité de près de 500 journalistes à travers le pays. Jesús Medina montre le bouton de panique qui l'aiderait à alerter les autorités en cas de danger. Mais le dispositif de protection présente des limites, selon lui.
Il est important que ce mécanisme de protection existe. Je suis témoin qu'il a sauvé des vies. Mais pour qu'il fonctionne réellement, il faut qu'un journaliste qui bénéficie de cette protection puisse continuer à travailler pour ne pas donner raison à ceux qui l'ont menacé. Si c'est simplement déplacer les journalistes pour qu'ils se taisent, à quoi sert-il ?
En dehors de Mexico, dans les zones sous l'emprise du crime organisé, les journalistes sont pris entre deux feux. Entre les cartels et les autorités, bien souvent corrompues. Ceux qui refusent de se taire encourent le risque de se voir réduits au silence. Et les agressions de journalistes se déroulent en toute impunité.
Des 5 assassinats commis depuis le début de l'année, dans 2 cas, les autorités disent que le mobile du crime n'a rien à voir avec le fait d'être journaliste. On dissocie l'agression du travail journalistique. On dit que c'est un règlement de compte, par exemple, pour minimiser les attaques envers les journalistes. L'indice d'impunité est très élevé. Ça pousse les agresseurs à penser que tuer un journaliste n'a pas de conséquences.
Aux manifestations qui ont eu lieu en janvier et février à travers tout le Mexique pour protester contre les assassinats de journalistes, seuls assistaient les membres de la profession. Le journaliste Jesús Lemus, qui enquête sur des affaires de corruption, a dû s'exiler à l'étranger après avoir reçu des menaces de mort. Il déplore l'indifférence de la société mexicaine.
Je crois que les Mexicains n'ont pas encore compris que l'assassinat d'un journaliste était aussi une agression envers la société elle-même. Il n'y a pas de conscience collective réelle de ce qu'implique le silence. La société risque de ne pas avoir accès à l'information, parce qu'on tue les journalistes.
Jesús Lemus décrit le silence qui s'est abattu sur des régions entières du pays.
À travers le pays, j'ai recensé au moins 42 zones de silence. Des endroits où le journalisme de dénonciation ou d'investigation est mort. Tout simplement parce que les journalistes ont peur de sortir dans la rue.
La peur, c'est au sein des rédactions de Tijuana qu'elle a élu domicile récemment. En janvier, à quelques jours d'écart, 2 journalistes ont été assassinés devant chez eux dans cette ville du Nord. Le photographe de presse Margarito Martinez Esquivel et Lourdes Maldonado. Tous deux étaient connus en ville et très appréciés de leurs confrères. Yolanda Morales, une journaliste locale, se souvient de ces 2 scènes de crime, pas comme les autres.
Devant le domicile de Margarito, j'ai vu les visages abasourdis des autres journalistes. J'ai regardé l'horizon en pensant « Je suis en train de couvrir l'assassinat d'un collègue. C'est vraiment ça que je suis en train de faire ?» J'étais en état de choc, nous l'étions tous. C'était un lundi et le dimanche, Lourdes était assassinée. De nouveau, nous étions sidérés. Nous couvrons leur mort en tant que journalistes, mais ce sont nos camarades. Ça pourrait être moi.
Cela pourrait être nous. Au Mexique, chaque assassinat de journaliste est perçu comme une attaque contre la profession entière, contre la presse, qui tente d'alerter du risque que cela implique pour la démocratie.
Emmanuel Stills pour le reportage. Merci beaucoup, Emmanuel. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Corinne Audouin. Et retour aux États-Unis, Corinne avec vous, à l'ouest des États-Unis, avec une découverte macabre dans le lac Mead, à cause de la sécheresse.
Oui, a gruesome discovery, comme le dit la présentatrice de la chaîne locale de Las Vegas News 3. Un squelette a été retrouvé dimanche après-midi dans un fût métallique sur la rive asséchée du lac Mead, dans l'état du Nevada. Alors c'est le plus grand réservoir d'eau des États-Unis, et sous l'effet de la sécheresse, son niveau a considérablement diminué. Ce sont des promeneurs qui ont trouvé le bidon rouillé, à moitié enfoncé dans la vase. D'après les premières analyses, la mort remonterait aux années 80. Sans doute une victime d'homicide. On imagine qu'il ne s'est pas mis tout seul dans ce bidon métallique. Alors la police, qui n'a pas encore communiqué le sexe de la victime, épluche le fichier des personnes disparues dans la région.
Water level is going so low, there's probably a lot more in there than what people realize.
Alors, comme l'explique ce riverain du lac Mead avec son accent inimitable, il faut s'attendre à d'autres découvertes du même genre à mesure que le niveau de l'eau baisse. Alimenté par le fleuve Colorado, le lac Mead est à son niveau le plus bas depuis 1937. Le débit du Colorado a diminué de 20% depuis un siècle, en grande partie à cause du réchauffement climatique. Alors, ceux qui ont enfoui d'inavouables secrets au fond du lac Mead sont prévenus.
Voilà, ça en fait des cold case. On part maintenant en Espagne où le projet de construction d'une méga église évangéliste fait débat.
Ils s'appellent les héros de l'évangile, alors héros, H-E-R-A-U-T-S, comme les messagers du Moyen-Âge. Dans la petite ville de Sevilla la Nueva, 9000 habitants près de Madrid, cette association privée de fidèles, de droit pontifical, a un sacré projet immobilier. Une église de style néo-gothique de 1800 mètres carrés, surplombée par deux tours de 70 mètres de hauteur, un monastère, une école, un parking de 500 places pour les fidèles, le tout sur 20 hectares. Le problème, c'est que les habitants ont peur de perdre leur tranquillité, d'autant que le coin est une zone naturelle protégée. Alors on attend ici l'évêque de Rétafé lors de la pose de la première pierre de ce complexe en 2019. Et donc cette pose s'est faite également avec la bénédiction du maire de Sevilla de la Nueva, membre du Parti Populaire. Depuis, les riverains ont lancé une pétition en ligne. Les fidèles de la giga-église ont lancé une contre-pétition. Au-delà de ces bisbilles immobilières, les héros de l'évangile, qui ont été créés en 95 au Brésil, qui sont implantés dans 70 pays, sont dans le viseur du Vatican. Le Vatican a ouvert une enquête sur cette association. Certains de ses membres pratiqueraient l'exorcisme.
Et puis, folie des grandeurs, toujours et encore, avec ce gang de voleurs qui opérait au sein même du gigantesque palais du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara,
le Palais Blanc, inauguré en grande pompe en 2014.
Voici la nouvelle résidence présidentielle turque, le Palais Blanc. Une folie d'Erdogan estimée à 275 millions d'euros, selon certains journalistes turcs. Au total, 1000 pièces, 300 000 mètres carrés de terrain, un palace extravagant qui fait polémique notamment parce qu'il a été construit sur une zone forestière aux abords d'Ankara. Ce palais est la résidence présidentielle la plus grande au monde.
Extrait d'un reportage d'Euronews. Et forcément, quand on a autant de mètres carrés, Fabienne, pas facile de surveiller le petit personnel. Et depuis 5 ans, en toute discrétion, des employés de la présidence dérobaient des jouets entreposés dans le palais, des voitures électriques et autres poupées destinées à être généreusement distribuées aux petits-enfants par le président Erdogan lors de ses visites. Ils avaient remarqué, ces employés, que le dépôt situé sous la mosquée privée de 5000 mètres carrés, qui jouxte le palais, toujours dans la mesure, ce dépôt n'était pas gardé. Et ce sont des images de vidéosurveillance qui les ont pris sur le fait, en train de charger dans des voitures officielles des dizaines de colis. 8 personnes, dont 6 employés du palais, ont été arrêtées. Ils ont gardé certains de ces jouets pour leurs enfants, mais la plupart ont été revendus à un marchand de jouets peu regardant. On parle d'un butin de 60 000 euros sur le seul dernier mois. Ça fait cher en poupée Barbie.
Comme vous dites, Corinne Audouin, sous les radars. Merci beaucoup Corinne. À demain, vous partez avec un chanteur indigène australien, figurez-vous, qui est aussi mon morceau de bravoure de la soirée. Il a disparu en 2017, ce monsieur. Voici son nom, il s'appelle Geoffrey Gurumul Yunupingu, voilà. La chanson s'appelle Wiyahul. Je voudrais remercier Djoubaka, le programmateur musical d'Un jour dans le monde, et je lui réserve un chien de ma chienne. Allez. Thank you. vais le refaire. Il s'appelle Geoffrey Gurumul Yunupingu. C'est un chanteur australien indigène. Je crois que je le prononce n'importe comment, en fait. Il a toute sa place dans Un jour dans le monde. Allez, mesdames, messieurs et autres genres, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Voilà, demain je vais qu'on me programme Durand-Durand. Je vais y arriver. Julia, chaque semaine vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec un petit voyage dans le Minnesota.
Où il fait bon être femme et mère en politique, visiblement. Convention démocrate. L'enjeu, l'investiture pour une place au Sénat. Face à face, Justine Emmerich et Erin McQuaid. Celle-ci monte à la tribune, prend le micro et parle transformation de la vie politique, opportunités économiques, vivre ensemble et droits humains.
So believe me when I tell you, this is our moment to build our future together, to unlock the powerful, life-affirming, transformative kind of politics that means we can help achieve safe and sustainable communities, create economic opportunity and prosperity, and safeguard our civil and human rights. And strengthen our human and public infrastructure. Excuse me.
Alors, qu'est-ce que la foule peut bien applaudir? Je ne le sais pas moi-même, et pourtant j'ai vu la vidéo, c'est vous dire si toute la séquence est lunaire. Vous avez peut-être entendu le souffle de la candidate, ouais. Souffle qui devient haletant à mesure qu'elle s'exprime, et puis plus rien, elle se tait, se courbe en deux. « Excuse me », dit-elle. Excusez-moi, oui, d'être enceinte jusqu'aux dents et accessoirement en plein travail. La grossesse d'Erin McQuaid était à terme au point qu'un rendez-vous avait été pris le soir même à l'hôpital. Son équipe avait demandé, en toute logique, un report du débat. Demande refusée. Quaid monte donc à la tribune, sur le point d'accoucher, mais se pliant aux règles selon lesquelles rien ne doit lui permettre d'en descendre avant d'avoir terminé son discours, elle va au bout et passe le premier tour de scrutin. Toute la journée, elle ira régulièrement s'isoler pour gérer la douleur des contractions. Contractions de plus en plus fortes. Douleur qui monte et monte et monte jusqu'à ce qu'elle fonce à la maternité, interrompt sa campagne et retire donc sa candidature. Question. L'élection a-t-elle été ajournée? Évidemment que non. L'aurait-elle été en cas d'AVC? Il est possible de penser que oui. Un accouchement est-il l'équivalent d'un panari en termes d'urgence et de désagrément? Je ne me permettrai pas de trancher, je ne suis pas médecin, mais je vais vous raconter la suite. Quaid se retrouvant coincé en salle de naissance. Justine Emmerich n'a plus d'adversaire face à lui, donc il gagne, donc il est investi. Est-ce qu'il a, lui, fait un geste et mis le souhait par humanité ou par fair play de reporter l'élection? Bien sûr que non plus. Ouais, mais il est sympa et en août, il sera papa. Alors dans une interview au Huffington Post, il déclare « En tant que parent, je sais que l'accouchement est un moment très spécial. » Merci Justine, mais moi, en tant que femme, j'ai une pensée pour la tienne.
Allez, on va pouvoir nager, ça n'a rien à voir. Seins nus à Göttingen, Julia.
Du calme, Fabienne, je sais que vous aimez la piscine. La mesure fraîchement votée par la ville ne concerne que les week-ends. Hein. Hors de question de perturber les séances de natation scolaire en pleine semaine. N'empêche que c'est une première en Allemagne et tout est parti de cet incident. Un agent de la piscine municipale interpelle une femme qui se baigne poitrine à l'air libre, sauf que l'interpellé refuse de remettre le haut. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifie au genre masculin et veut donc pouvoir nager torse nu, quitte à se faire virer des lieux manu militari. La polémique flambe et à une époque où les contours du genre, disons, se fluidifient, elle interpelle aussi bien la population que les pouvoirs publics qui finissent par trancher tout le monde. Homme ou femme, cis ou trans, binaire ou non-binaire, vraiment tout le monde donc, se pliera aux mêmes règles et bénéficiera des mêmes droits. Ça peut paraître un détail, un tout petit combat bien ridicule au regard d'enjeux comme celui de l'IVG, que vous avez évoqué ici, Fabienne, évidemment, et c'est vrai, sauf à se souvenir que cette histoire nous parle aussi de normes sexuées et de double standard, ce qui est valable pour les hommes ne l'est toujours pas pour les femmes, ou pas toujours, qu'elle nous parle de sexe, de genre, de corps et de son contrôle, et qu'en somme, elle nous dit que notre vieux monde bouge dans tous les sens, peut-être, mais qu'au moins, on s'interroge et qu'à ce titre, ouais, même un monokini peut raconter plein de choses.
Et c'est dans le nom de famille que s'est jouée une autre bataille, cette fois c'est en Italie.
Tous les enfants, qu'ils soient issus d'un couple marié ou pas, pourront désormais porter le nom de leur mère, de leur père, ou bien des deux, mon capitaine. La Cour constitutionnelle italienne vient de déclarer caduque un article du Code civil qui prévoyait de donner, comme chez nous, hein, automatiquement le patronyme paternel à toute la descendance, mesure considérée, je cite, comme un héritage patriarcal que rien aujourd'hui ne pourrait légitimer. Oui, oui, ceci se passe bien au pays du Carbo Famiglia, du Pater Familias par excellence. Comme quoi, tout fout le camp, Fabienne.
Ah là là, Julia Foyce, revenez quand même, ce sera mardi prochain dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean Marfour. Jean-Marc, la Commission européenne s'apprête donc à annoncer ce soir, demain matin, probablement un sixième train de sanctions économiques contre Moscou. Il devrait notamment initier un début d'embargo sur le pétrole. Mais pour vous, il ne faut pas se faire d'illusions. Ces sanctions n'arrêteront pas la guerre en Ukraine. Il faut même arrêter de penser que c'est leur objectif. Et c'est votre monde d'après.
Oui, il faut se rendre à l'évidence. Après 2 mois et demi de conflit et 2 mois et demi de sanctions, Moscou tient son cap et amortit le choc. Les représailles économiques européennes n'ont rien changé à la détermination guerrière de Poutine. Il n'y a pas eu de panique financière ou monétaire à Moscou. Le rouble a même nettement dépassé son niveau d'avant-guerre face à l'euro, figurez-vous. Et la Russie a évité le défaut de paiement sur sa dette. Elle vient d'opérer un remboursement la semaine dernière. Plus fort encore, la balance commerciale russe est excédentaire. Et pour cause, la Russie continue d'exporter son gaz et son pétrole. Rien que le pétrole, c'est 700 millions de dollars par jour. Et elle voit ses importations, à l'inverse, restreintes par les sanctions, donc bénéfice commercial. Moscou tient aussi en contrôlant strictement toute évasion de capitaux, impossible de sortir de l'argent du pays. Et puis parce que le pouvoir n'a aucun état d'âme à imposer des restrictions à la population, l'idéologie prévaut sur le bien-être. Alors oui, quelques oligarques tordent du nez parce qu'ils ont vu leur yacht immobilisé, mais ce n'est pas ça qui va arrêter la guerre. Aucun espoir de ce côté-là, en tout cas à court terme, tant que Moscou trouve des acheteurs pour son gaz et son pétrole. Pour le dire autrement, pas plus que la Russie n'a remporté le bras de fer militaire, l'Europe n'a remporté le bras de fer économique.
Mais donc, à quoi ça sert les sanctions alors ?
En fait, elles servent à autre chose de très important. Elles constituent une formidable opportunité économique pour en finir avec une double addiction. La première de ces addictions, c'est la dépendance à la Russie, via le gaz et le pétrole. Répétons-le, en Europe, 40% des approvisionnements en gaz proviennent de Russie. Cette dépendance, a fortiori vis-à-vis d'un pouvoir autoritaire, était un aveuglement et certains dirigeants en sont directement responsables. On songe à l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Les sanctions nous imposent de diversifier nos approvisionnements, d'aller chercher pour compenser du gaz de Norvège, du Qatar, d'Algérie, d'Azerbaïdjan, des États-Unis. Mais attention quand même à ne pas recréer une dépendance vis-à-vis d'un autre fournisseur principal, quel qu'il soit, même les États-Unis. Le mot-clé, c'est bien diversification. La deuxième de ces addictions, c'est évidemment la dépendance aux énergies fossiles. Toute cette séquence des sanctions, on le met en évidence comme le nez au milieu de la figure. Notre autonomie, notre liberté d'Européens passe par le recours à des énergies que nous pouvons développer nous-mêmes, donc soit le nucléaire, même si on en connaît les risques, soit les renouvelables, et sur l'éolien ou le solaire, la France est en retard par rapport à ses voisins espagnols, allemands ou britanniques. Puis en plus, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups une politique compatible avec les impératifs climatiques et le Green Deal de Bruxelles qui entend faire de l'Europe un leader mondial sur ce sujet.
Donc effectivement, ça n'a plus rien à voir avec l'ambition de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Alors un petit peu quand même, parce que l'affirmation de ces sanctions n'est pas seulement un calcul économique, c'est aussi un acte politique d'opposition à l'invasion russe, l'affirmation d'une volonté européenne face à l'agressivité de Moscou, et là on rejoint la question de la guerre. Ces sanctions fournissent l'occasion de proclamer que l'économie est au service du politique, et ça c'est en soi un événement pour l'Europe, parce que c'est plus qu'un changement de braquet, c'est un renversement de perspective pour cette union longtemps cantonnée à une alliance commerciale et monétaire. L'affirmation de cette volonté politique, elle doit se traduire d'abord par le maintien de l'unité des 27. Poutine, de toute évidence, mise sur des divisions entre Européens, notamment entre Paris, Rome et Berlin, sur les contraintes énergétiques. Maintenir cette unité est primordial. Cette volonté, elle doit se traduire aussi par de la fermeté. C'est pour ça qu'il faut refuser de céder au chantage de Poutine sur le paiement du gaz en rouble, avec son tour de passe-passe opaque via des comptes à la Gazprom Bank. C'est pour ça, enfin, que l'Europe doit développer une défense autonome en complément de l'OTAN pour protéger en particulier son flanc est en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie, et ne pas laisser cette tâche aux seuls Américains. On se résume, les sanctions européennes ne mettront pas fin à la guerre en Ukraine, mais elles peuvent contribuer à affirmer un objectif beaucoup plus large. L'émergence d'une Europe qui ne soit pas seulement un pouvoir économique, mais aussi une puissance politique, un géant.
Jean Marfour, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Et puis, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.